Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, comment dit-on inoxydable en allemand? Réponse, Angela Merkel, la chancelière donnée grande favorite des élections législatives après-demain. Elle devrait rempiler pour 4 ans à la tête du pays, mais au-delà de son score, c'est aussi la poussée de l'extrême droite qui devrait marquer le scrutin. Et si Londres dévoilait enfin son jeu, la première ministre britannique Theresa May lève le voile sur sa vision du Brexit. Il était temps, soupirent ses ex-partenaires européens. Moins de monde dans les manifs et le gouvernement qui accélère, les ordonnances sur le code du travail seront officiellement ratifiées aujourd'hui par Emmanuel Macron. Hier, les cortèges syndicaux n'ont pas fait le plein. À 8h20, un philosophe justement face à la France d'Emmanuel Macron. Il est votre invité ce matin, Nicolas, et disons qu'il est plutôt perplexe.
Et oui, la politique existe-t-elle encore en France? Est-elle même possible face à l'économie et à la morale? À 8h20, c'est le philosophe Régis Debray qui sera au micro d'Inter à l'occasion de la 4e édition du festival qu'organise le quotidien Le Monde. Vos questions 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, l'impôt sur la fortune qui se dégonfle. Il ne rapportera pas plus d'un milliard d'euros l'an prochain après le coup de rabot du gouvernement. Le procès de la voiture de police incendiée à Paris qui s'achève aujourd'hui. Les malheurs du FN qui font peut-être le bonheur de la droite. Et puis à la fin de ce journal, des musiques qu'on a tous sifflotées un jour.
France Inter.
Voilà une longévité qui ferait rêver ici en France. Après 12 ans au pouvoir et 4 présidents français croisés sur sa route, Angela Merkel s'apprête donc à rempiler à la tête de l'Allemagne au terme des élections législatives après-demain. Son parti, la CDU, s'annonce comme le grand vainqueur, crédité d'une quinzaine de points d'avance sur les sociaux-démocrates. Mais c'est aussi la troisième place qu'on scrutera de très près, car elle pourrait revenir à l'extrême droite incarnée par l'AFD, parti populiste anti-immigration. Ses meetings font le plein et ils rêvent d'une entrée en masse au Parlement. À Berlin, Cyril Sauvageau.
À J-2, les militants de l'AFD se sentent pousser des ailes. Les sondages sont en hausse et les meetings font le plein, comme ici à Ebersbach, près de Dresde. Harry, la cinquantaine, se prend à rêver d'une grosse surprise dimanche.
Il y a encore beaucoup d'indécis. Je crois qu'on peut espérer faire 20, peut-être 25% des voix. En tout cas, c'est mon souhait. L'AFD est le seul parti qui se soucie des vrais Allemands. Les autres n'en ont rien à faire.
En ligne de mire, la politique migratoire d'Angela Merkel, le thème fétiche de l'AFD. À la tribune, le candidat local Carsten Hütter déroule le programme du parti, réforme du droit d'asile et rétablissement des contrôles aux frontières.
L'ordre et la sécurité sont la garantie d'une vie en paix, la garantie d'une politique familiale qui permette à chacun de vivre bien et de se sentir protégé.
La peur du déclassement, c'est l'autre grand sujet de préoccupation. Beaucoup, comme Eden, ne se reconnaissent pas dans le bilan flatteur des années Merkel.
On nous dit que tout va bien en Allemagne, mais c'est faux. On croule sous les impôts et on le voit autour de nous. Le taux de chômage n'est pas si bas. Madame Merkel passe son temps à nous dire « ça va aller mieux, ça va aller mieux ». Mais depuis 12 ans, elle a eu tout le temps de faire en sorte que ça aille mieux. Plus personne ne la croit.
Si la réélection d'Angela Merkel ne fait plus aucun doute, mais les militants sont convaincus, dans 4 ans, l'AFD sera prête à prendre le pouvoir. Berlin, Cyril Sauvageau, France Inter.
L'Allemagne et son taux de chômage qui lui aussi fait rêver de ce côté si durin. Il est deux fois plus faible qu'en France, mais au prix de millions d'emplois précaires. La face cachée de l'économie allemande, dossier à découvrir sur franceinter.fr. Et pendant que l'Allemagne devrait, sauf gros coup de théâtre, choisir la continuité, le Royaume-Uni, lui, voudrait enfin sortir du brouillard. Discours très attendu aujourd'hui de Theresa May. Alors que les négociations sur le Brexit s'enlisent, la première ministre britannique a choisi la ville de Florence en Italie pour donner enfin sa feuille de route et donner aussi le montant du chèque qu'elle est prête à signer, Antoine Gignot.
Pour les tabloïds, si la première ministre va à Florence, c'est pour s'adresser directement aux chefs d'État des pays de l'Union pour court-circuiter Bruxelles et ce Michel Barnier jugé trop borné par le Daily Express. Le négociateur chargé du Brexit, lui, se contente de répondre qu'il attend des engagements clairs et qu'il écoutera le discours avec attention. Car de l'attention, il va en falloir. Le texte tient sur plus d'une dizaine de pages. Il a été lu et relu par l'ensemble des ministres hier pendant plus de 2h30 pour éviter les couacs, notamment sur la question de l'ardoise que le Royaume-Uni va devoir payer pour sortir de l'Union européenne. Ce sera, selon le gouvernement britannique, une offre ouverte et généreuse avec un nouveau partenariat économique, une nouvelle coopération en matière de sécurité. Mais la Première ministre va surtout plaider pour une période de transition. Concrètement, le Royaume-Uni pourrait continuer à payer jusqu'en 2020 l'équivalent de sa participation au budget européen, soit un peu plus de 20 milliards d'euros, et pourrait vouloir, en échange, conserver un accès au marché unique. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Pas de temps à perdre, il est 8h05. Les ordonnances sur la réforme du Code du travail arrivent ce matin, marquent sur la table du Conseil des ministres.
Pas de temps à perdre, et dans la foulée, c'est Emmanuel Macron, stylo en main, qui va les ratifier lors d'une cérémonie télévisée à l'Élysée. Bonjour Frédéric Métezeau.
Bonjour Marc Fauvel.
Une mise en scène censée incarner la détermination de l'exécutif.
Oui, à l'américaine, comme pour la loi sur la moralisation de la vie publique, il y a une semaine tout juste, Emmanuel Macron va ratifier les ordonnances, stylo en étendard, devant les appareils photo et les caméras, une pure mise en scène pour solenniser la réforme du Code du travail. Et pourtant, les ordonnances ne sont pas figées. Dès leur publication au Journal officiel d'ici 2-3 jours, elles entreront en vigueur, mais comme un simple règlement. Pour devenir une loi, les ordonnances devront encore être votées au Parlement dans les 3 mois, et lors des débats, les députés et les sénateurs auront théoriquement toute latitude pour réécrire les textes. Mais c'est politiquement peu probable. Hier, l'Élysée et Matignon parlaient d'un reflux de la mobilisation syndicale. Peu importe le nombre de manifestants hier ou de barrages de camionneurs lundi, il n'est pas question de reculer, expliquait un conseiller du Premier ministre. La majorité ne réécrira pas les ordonnances. En revanche, les oppositions pourront faire durer les débats à l'Assemblée et au Sénat, voire saisir le Conseil constitutionnel. Autre levier pour modifier ces ordonnances, les décrets d'application sur certains points comme le financement des nouvelles instances représentant le personnel. Décret en cours de rédaction dans les cabinets ministériels.
Merci Frédéric Métezeau. L'Élysée qui veut donc pousser son avantage alors que les cortèges hier n'ont pas fait le plein. Donc 130 000 manifestants dans toute la France. Chiffre du ministère de l'Intérieur. C'est presque deux fois moins que la semaine dernière. La CGT, elle ne donne pas de chiffres, mais elle reconnaît que la mobilisation a été un peu inférieure à celle du 12 septembre. Je m'excuse auprès des professeurs, j'ai trop de respect pour eux. Le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, en mode mea culpa, après la diffusion d'une campagne du patronat ciblant les enseignants. Le slogan « Si l'école faisait son travail, j'aurais du travail » avait froissé certains syndicats. Même le ministre de l'Éducation s'en était ému. On le pressentait, c'est confirmé, le nombre de contrats aidés va chuter de 40% l'an prochain par rapport à cette année. Il y en aura 200 000 et ils seront désormais réservés au secteur public. Et puis un autre chiffre qui pourrait bien relancer le débat sur les cadeaux fiscaux faits aux Français les plus riches. Il concerne le nouvel impôt sur la fortune, revu et corrigé par Emmanuel Macron, et qui ne taxera plus que le capital immobilier. Le résultat, ce sont les Échos qu'il révèle ce matin. Le produit de cet impôt va fondre comme neige au soleil de 5 milliards d'euros cette année. Il ne rapportera plus qu'un milliard l'an prochain. Pierre Madec est économiste à l'OFCE.
Quand on regarde le patrimoine des ménages les plus aisés, ceux qui payent l'ISF, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus dans ce patrimoine de patrimoine mobilier, donc de placements financiers, que de patrimoine immobilier. Donc de fait, quand vous enlevez du mode de calcul de l'ISF tout le patrimoine mobilier, donc tous les placements, et vous gardez que le capital financier, vous renoncez à énormément de recettes fiscales, plus de 4 milliards de recettes fiscales, c'est très très important. Là, on réduit très très fortement le rendement de l'ISF, parce qu'on arrive à une recette qui est inférieure à 1 milliard d'euros. Est-ce que l'impôt en soi a encore un intérêt? C'est pas sûr. Donc on peut penser que, en fait, au final, on va finir par supprimer l'ISF. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'en gros, la réforme de l'ISF plus globalement la réforme de la fiscalité du capital va accroître les inégalités de niveau de vie entre les ménages très riches et les ménages plus modestes.
Pierre Madec interrogé par Maxime Debs.
Après le divorce, les grandes manœuvres au Front National.
À peine parti, déjà remplacé, Marine Le Pen a choisi son ancien directeur de campagne, le sénateur maire de Fréjus, David Racheline, pour s'occuper de la communication du FN en remplacement de Florian Philippot qui en a claqué la porte hier. Parfum de crise au FN et sourire à peine masqué, en revanche, du côté des Républicains et de celui qui pourrait les diriger bientôt, Laurent Wauquiez. Il est persuadé, Yannick Faltz, qu'un espace politique vient de s'ouvrir devant lui.
Pour Laurent Wauquiez, c'est du pain béni. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes jubile en petit comité. Ça valide, dit-il, ce que je cherche à faire. Ce qu'il cherche à faire, c'est retour vers le futur. 2007, Nicolas Sarkozy siphonne l'électorat frontiste. On a la même fenêtre de tir, s'enthousiasme Laurent Wauquiez, en pointant une double crise au FN, crise de ligne politique et crise d'incarnation, avec une Marine Le Pen qui a tatoué sur le front, je cite, qu'elle n'est pas compétente, qu'elle ne pourra jamais faire le job. Objectif donc, faire revenir les fâchés, pas les fachos, pour paraphraser l'expression de Jean-Luc Mélenchon, Comment, en assumant son positionnement, celui d'une droite vraiment de droite, sur le régalien, autorité, sécurité, immigration, mais aussi le social par le travail, précise l'intéressé, pas par l'assistanat, avec dans le viseur les classes populaires, car Laurent Wauquiez le dit sans détour, les bobos et les patrons de PME passés chez Macron, eux ne reviendront pas.
Pour le gouvernement, c'est un nuage qui s'éloigne dans l'affaire du déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas en 2016, lorsqu'il était ministre et quasi-candidat. Hier, les juges ont entendu pendant plus de 6 heures l'une des protagonistes du dossier, l'ancienne directrice de la communication de Business France chargée d'organiser l'événement. À l'époque, elle travaillait sous les ordres de l'actuel ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Elle risquait une mise en examen. À la sortie, elle a été placée uniquement sous le statut de témoin assisté.
France Inter, 8h10, héritière, actionnaire, milliardaire. Elle était tout cela à la fois.
Héritière du groupe L'Oréal, fondée par son père, elle en était l'actionnaire principale, assise sur une fortune de 33 milliards d'euros, ce qui en faisait la femme la plus riche de la planète. Liliane Bettencourt, morte à 94 ans, laisse un empire derrière elle après une vie passée dans l'ombre. Ce sont les affaires judiciaires et les disputes familiales qui l'avaient propulsée malgré elle sur le devant de la scène. Portrait signé Delphine Evenou.
Brushing impeccable, carré de soie et lèvres maquillées, Liliane Bettencourt arbore l'allure de son statut social, celui qui lui a permis de fréquenter Coco Chanel et les Pompidou, une vie mondaine mais fuyant micros et caméras. L'œuvre de sa vie, c'est celle de son père adoré qui l'a élevé seul.
Le temps n'est plus où la coiffure s'improvisait dans un salon de quartier.
Eugène Schuller, créateur de L'Oréal, envoie Liliane, 15 ans, en stage dans ses usines.
Les plus grands laboratoires capillaires d'Europe.
Pendant 50 ans, la milliardaire actionnaire garde le temple depuis les bureaux feutrés du conseil d'administration. Sa voix, troublée par une surdité partielle depuis l'enfance, se fait publique en 2010. Affaire Bettencourt, elle accueille Claire Chazal dans sa propriété fétiche de l'Arc-Ouest en Bretagne pour se défendre.
Je suis discrète. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être discrète? Clamer quoi? Les gens clament pour moi.
Ça vous dérange?
Disons, inversement, ça ne m'arrange pas.
Face caméra, elle envoie aussi des messages à sa fille unique, Françoise, qui ne lui parle plus.
Comment voulez-vous ne pas souffrir? C'est même beaucoup plus que ça, c'est déprimant.
Mais les largesses aux proches, elle ne les regrettera pas, comme au photographe François-Marie Bagné, qui lui apporte cette fantaisie qu'elle aime tant.
Qu'importe, on est très généreux, et bien on est trop généreux, et puis merde. Non.
Féru d'art, de cinéma, la discrète Liliane Bettencourt aura, malgré elle, fini sa vie héroïne d'un grand feuilleton politico-judiciaire.
Limoges en début de semaine, puis Grenoble hier, qui se cache derrière le mystérieux groupuscule qui vient de revendiquer deux incendies contre des casernes de gendarmerie. Il a posté un message hier se revendiquant de la mouvance anarcho-libertaire. Quant au motif invoqué, ce serait en soutien aux prévenus, jugés en ce moment à Paris pour l'incendie d'une voiture de police en mai 2016. Un procès qui s'achève aujourd'hui, justement, au terme de 3 jours d'audience. Hier, le tribunal a longuement interrogé l'un des suspects, Antonin Bernanos. Depuis le début, l'étudiant nie les faits. Il affirme que les preuves apportées contre lui n'en sont pas. Compte rendu d'audience, Sophie Parmentier.
Antonin Bernanos, brun ténébreux au look d'étudiant sage, s'agrippe à la barre et tente même d'y enfoncer ses poings. Sa colère semble à fleur de peau après ses 10 mois de détention provisoire. Ce jeune homme de 23 ans, arrière-petit-fils du célèbre écrivain, parle de sa famille aimante et répète que ce n'est pas lui qui a décoché de violents coups de pied à Kevin Philippi au volant de la voiture de police. Pas lui non plus qui a fracassé le pare-brise arrière avec un plot métallique avant qu'un autre ne jette un fumigène et que tout l'habitacle s'embrase. Mais ce caleçon rose qu'on voit sur cette vidéo sous le jean, c'est bien le vôtre ? L'interroge un magistrat. Absolument pas, rétorque Antonin Bernanos d'une voix grave, presque arrogante. Son avocat sort alors une série de photos extraites des vidéos et méthodiquement zoome sur chaque détail pour démontrer que les enquêteurs ont pu confondre Antonin avec un autre en blouson, capuche, cagoule, basket noire. Maître Halimi rappelle les 12 interpellations du militant Antonin Bernanos pour une seule condamnation à des travaux d'intérêt général. Mais ce matin, le procureur pourra requérir jusqu'à 10 ans de prison.
Enfin, une manifestation pour un produit chimique. C'est assez rare. Environ 300 agriculteurs bloquent en ce moment les Champs-Élysées à Paris contre la volonté de la France d'interdire le glyphosate, cet herbicide jugé probablement cancérigène. Parmi eux, David Greffin du syndicat FNSEA.
Moi, je ne suis pas marchand de produits. J'en ai rien à faire de défendre les produits phytosanitaires. Sauf que c'est un outil. Une salade, une tomate qui est produite en Espagne et qui est vendue sur les marchés à Paris, puisque c'est 80% de ce qui se passe, c'est produit et cultivé dans des conditions phytosanitaires bien pires. Alors on fait tout un focus sur le glyphosate parce que c'est emblématique, puis derrière, il y a Monsanto, etc. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'en fait, si on l'interdit, eh bien, on aura un produit qui sera une fois, deux fois, 10 fois plus cher. Donc en fait, on va venir faire peser sur l'agriculteur français une charge que l'espagnol, que le portugais, que l'allemand, que personne n'a.
David Greffin avec Guillaume Gaven. Une délégation va être reçue à l'Elysée.
Et on lui doit quelques-unes des plus belles musiques de films.
Si je vous dis Le Professionnel, Mission ou encore tenez celle-ci. Même Thomas Legrand a trouvé ses dires, le bon, la brute et le truand, la musique inimitable d'Ennio Morricone. 60 ans de carrière, il était hier soir en concert Arrêté Thomas à Paris, devant les 16 000 spectateurs de l'Accor Arena et devant Mathieu Culeron au premier rang.
Ennio Morricone, costume sombre, lunettes sombres, va rejoindre son pupitre d'un pas presque assuré face à l'Orchestre Symphonique National Tchèque, accompagné d'un chœur de 75 choristes. À 88 ans, la baguette ne tremble pas et le regard est perçant au moment d'entamer ce concert qui célèbre ses 60 ans de carrière. Et le public ne peut retenir son excitation lorsque le compositeur enchaîne la musique d'Il était une fois dans l'Ouest avec celle du bon, de la brute et du truand. Après trois rappels, le compositeur tire sa révérence et le public de Bercy est bouleversé.
De l'émotion, enfin, c'est quand même puissant, quoi.
On a initié pas mal de choses et non, franchement, c'était super. Ouais.
C'est un génie.
Une légende, une étoile, c'est... Il n'y a rien à dire, juste canonissime. Je l'ai raté plusieurs fois et j'espère que ce n'est pas la dernière. L'un des plus beaux concerts de ma vie.
Ennio Morricone qui aura à peine esquissé un sourire en plus de 30 morceaux joués hier soir, mais qui a secoué les 16 000 spectateurs de l'Accor Arena avec aisance, notamment avec des morceaux comme celui-ci.
Et comme on dit dans les westerns, Nicolas, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un flingue et ceux qui creusent. Et toi, tu creuses.
Et ceux qui ont une montre aussi. Merci Marc Fauvel.